Bonjour à tous. Alors, j'ai une pensée. J'ai reçu une pensée pendant les vacances. Je vais vous raconter comment cette pensée m'est arrivée. Ou plutôt, les circonstances dans lesquelles cette pensée m'est arrivée. Jamais j'aurais pensé que cette pensée me serait arrivée à ce moment-là. J'étais tellement bien dans un jacuzzi. Eh oui, comme quoi. Ça fait du bien. Pas que les bulles, mais la pensée. Mais avant d'arriver à vous raconter un petit peu tout cela, je voudrais introduire ces moments par un texte dans le psaume 10, verset 12. Psaume 10, verset 12, le psalmiste fait le contraste entre la prospérité du méchant et le fidèle enfant de Dieu qui, lui, est dans des souffrances qui n'en finit jamais. Et ça, on le constate, on le voit. Hein. C'est curieux de voir que des gens dans le monde qui ne se soucient même pas de Dieu sont plus prospères que des enfants de Dieu. Et qui prient, et qui prient, et qui prient, et qui ne reçoivent pas, apparemment. Le psaume 10, donc c'est une prière du psalmiste. Psaume 10, verset 12. Lève-toi, Éternel, Jésus. Lève-toi, Jésus. Ô Dieu, lève ta main et n'oublie pas les malheureux. N'oublie pas les malheureux. Donc, dans le contexte, les fidèles, les méchants prospèrent et les fidèles sont dans le malheur. Alors le psalmiste, il dit, lève ta main et ne les oublie pas. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. J'arrête ici. Et cette dernière expression, elle est quand même pour prendre en main leur cause. Seigneur, prends en main les causes, la cause de tes enfants. Ça vous est jamais arrivé de penser que Dieu vous avait un peu oublié? Non? Vous savez qu'on est dans l'épreuve, la difficulté, qu'on est dans des prières et on prie et on prie et on prie et on n'est pas exaucé, pourtant on prie selon la volonté de Dieu, mais on a l'impression que Dieu est parti s'occuper des autres. On est comme dans un grand désert. On a l'impression qu'on est comme été oublié de Dieu. On est tous passés par ces phases-là, tous. Tous. Et le psalmiste, il est là pour comme intercéder pour ces enfants qui sont dans ces déserts en disant, prends en main leur cause. Ils t'aiment, ils t'ont pas renié, mais ils ne voient pas ton secours. Alors Seigneur, lève ta main et va les secourir. Ne les oublie pas, aucun. Ce matin, je voudrais vous parler très courtement, hein. On va faire une rentrée lente. Je voudrais vous parler peut-être d'un sujet qui est l'un des plus mystérieux de la Bible, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut que le raconter, mais pas l'expliquer, la providence. Vous savez ce que c'est la providence? Pardon? Ouais. Si je devais donner une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne. Hein. C'est quand Dieu agit silencieusement au travers des circonstances de vos vies et sans vous le dire. Donc on ne parle pas d'exaucement de prière. Seigneur, ça serait bien que tu fasses ça. Non. Dieu va agir en votre faveur parce qu'il va prendre en main votre cause, mais sans vous dire le pourquoi du comment, il va faire concourir toutes choses pour que ce soit sa volonté à lui qui se fasse. Pas vous ce que vous pensez, parce que vous y pensez même pas. Mais Dieu, lui, l'a pensé pour vous. On est tellement limité par nos raisonnements. On sait ce qu'il serait bon que Dieu fasse pour nous. Mais c'est pas forcément ce que Dieu a décidé de faire. Et c'est là que la providence de Dieu entre, bien sûr, dans nos vies. C'est quand Dieu agit sans rien nous dire. Mais il le fait. Et les circonstances sont conduites de telle manière, on s'en rend même pas compte. C'est peut-être des mois plus tard, ou voire des années plus tard. On regarde un petit peu dans le rétro en se disant, mais oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a conduit. On peut dire que, oui, il y a une action parfois directe de Dieu dans nos vies quand nous prions. Par exemple, un don spirituel qui vous donne une direction. Ben, c'est clair, c'est net, c'est Dieu qui vous parle. Mais quand Dieu vous dit rien, mais il vous laisse dans le flou le plus total, mais que malgré cela, il se sert des circonstances pour vous amener dans sa volonté, c'est ce qu'on appellera la providence divine. Et ça, on n'y échappe pas. Parce que nous sommes ses enfants. Parfois, Dieu vous éclairera d'une manière tellement lumineuse que c'est une évidence. Dieu est avec moi et je le sais. Mais des fois, Dieu sera avec vous, mais vous ne le ressentirez même pas. Jusqu'à même dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'écoutes plus? Pourquoi tu fais plus rien? Pourquoi tu m'as abandonné? Ce sont des ressentis trompeurs, très charnels, mais des ressentis qu'on a tous, à un moment ou à un autre. Mais Dieu, lui, dans sa providence, il dirige, il conduit les circonstances, sans rien nous dire. Sans rien nous dire. Oh, c'est pas forcément toujours et systématique. Mais on est tous passés par là. Par des moments où, ben, c'était providentiel, et c'est tombé du ciel le truc, hein. Et on n'avait pas prié pour ça, parce qu'on n'y avait même pas pensé. Et pourtant, tout a concouru pour que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est là qu'on a appris à découvrir la volonté de Dieu. Il y en a qui ont fait ce genre d'expérience un petit peu, où il y a, ouais, quand même, hein. La providence de Dieu. S'il y a un livre qui nous parle de la providence, il y en a un particulièrement, un. Il est très court, quatre chapitres. C'est, vous savez lequel c'est? Comment? Ouais. Ruth. C'est un livre, il est vraiment curieux. Parce que le nom de Dieu, ou plutôt, un Dieu qui agit, ça n'apparaît pas dans ce livre. Bon, il est mentionné de temps en temps. Mais jamais on ne voit Dieu à l'action. Pourtant, si vous connaissez l'histoire, mais c'est incontestable que Dieu était aux commandes, que Dieu dirigeait la situation, que Dieu n'a jamais perdu de vue la situation. Mais au fil des situations, au fil des circonstances, des chapitres, c'est Dieu qui conduit, sans rien dire à personne. Et c'est plus tard que les principaux intéressés pourront dire « mais c'était la main de Dieu ». On va y revenir dans le livre de Ruth. Il y a aussi deux autres livres où on voit la providence de Dieu d'une manière quand même ben, évidente. Hein, c'est Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie, on voit Dieu qui agit, c'est mentionné. Mais souvent dans les propos de Néhémie ou d'Esdras, il y a cette petite expression qui revient souvent. « La main de l'Éternel était sur moi ». La main de l'Éternel était sur moi. Et parfois, c'est même rajouté, la bonne main de l'Éternel. 16 fois, ça revient. Et pourtant, quand vous lisez la situation, c'est une circonstance banale. Humainement, c'est quelque chose qui, rien ne semblait montrer que Dieu était aux commandes. Et pourtant, que ce soit Néhémie et Esdras, eux ont reconnu que Dieu était aux commandes. Parce que parfois, Dieu était aux commandes alors qu'aucune prière montait vers lui. Et Dieu dirigeait. Et souvent, vous relirez Néhémie Esdras, c'est très court. Vous allez voir cette expression qui revient. La bonne main du Seigneur était sur moi, était sur nous. Je crois, vraiment je crois, que la main du Seigneur, elle est sur nous. Pas pour nous écraser, pas pour nous enfoncer, pas pour nous éloigner ou nous rejeter, mais parce que nous sommes ses enfants rachetés, sa bonne main, elle est sur nous. On la sent pas. Ou des fois, un peu moins que d'autres. Mais c'est sûr, c'est biblique, c'est doctrinal, c'est spirituel, la main du Seigneur nous conduit. Des fois, je répète, elle le fera d'une manière directe. Vous allez voir la main de Dieu qui va ouvrir un chemin et écarter tous les obstacles. Et des fois, vous verrez rien du tout. Mais simplement des situations qui vont se goupiller de telle sorte que vous direz à la fin, mais c'est Dieu, parce que moi j'ai rien fait, hein, c'est Dieu. Hein. Et toute la gloire en revient au Seigneur. Il est dit dans Ésaïe le prophète, « Éternel, ta main est puissante, les hommes ne l'aperçoivent pas, mais ils verront ton zèle pour ton peuple et ils seront confus. » Ta main est puissante, Ésaïe 26, 11. Éternel, ta main est puissante, les hommes ne l'aperçoivent pas. Je dirais que même les enfants de Dieu parfois ne l'aperçoivent pas. Mais elle est toujours là, la main de Dieu. Elle est toujours là pour nous conduire. Jésus dira, en parlant justement de ses brebis, de son troupeau, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, car personne ne les ravira de ma main. Personne. La main de Dieu vous conduira. Elle vous conduira. C'est rassurant. C'est vraiment très rassurant. Même si on n'en fait pas parfois des sujets de prière pour savoir quel chemin il faut faire, parce que bien souvent on s'appuie sur « Oh, moi je pense qu'il faudrait que je prenne ça ». Ou moi, je pense que cette direction serait bonne pour moi, alors on n'en fait pas un sujet de prière. On s'est auto-convaincu que c'était forcément bon. Celui qui a le dernier mot, c'est toujours le Seigneur. Et sa providence peut vous réorienter. Et sans vous le dire, combien de portes se sont fermées? On n'avait pas prié pour qu'elles se ferment, mais elles se sont fermées. Combien de portes se sont ouvertes? On n'avait pas prié pour qu'elles s'ouvrent. Elles se sont ouvertes. Mais qui fait ça? Le hasard? Notre bonne étoile? Les astres qui sont bien alignés? C'est le Seigneur. Parce que nous sommes ses enfants, tout simplement. Nous sommes ses enfants. Quel est le but de la providence divine? Quel est le but de la providence du Seigneur dans nos vies? Il y a ce texte, on pourrait tous le réciter par cœur. C'est souvent le texte que, je dirais, on envoie un peu facilement, vous savez, quand quelqu'un est dans la difficulté et qu'on ne sait pas quoi lui dire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux. Vous savez, c'est tellement vrai. Et c'est un texte qui comble les silences, hein, tout simplement. Mais il y a une vérité. Nous savons du reste que toute chose, toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que derrière toutes mes situations au quotidien, mais les plus incompréhensibles, mais comme les plus compréhensibles, tout à l'heure, à la fin du culte, je vais rentrer chez moi et je vais me mettre à table et je vais faire certainement mon repas. Il n'y a rien de mystérieux, mais attendez. Et si Dieu, d'une manière providentielle, désorientait ma pensée pour m'amener ailleurs, dans toutes nos situations, compréhensibles comme incompréhensibles, dans nos situations heureuses comme malheureuses, dans nos échecs comme dans nos réussites, dans nos joies comme dans nos déceptions, dans tout ce que nous vivons, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu règne sur ma vie. Dieu règne. Et c'est bien souvent un règne silencieux. Nous, on voudrait entendre la voix de Dieu, mais Dieu se plaît dans le silence. Parce que c'est dans le silence qu'on apprend à faire confiance. Si Dieu vous disait tout, où serait la confiance et la foi? Il y a un chant, on ne l'a pas chanté, mais un chant qui est très connu, on ne le chante plus trop. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Mais si Dieu était vraiment visible dans toutes nos voies, ça serait une évidence que Dieu conduirait. Mais quand Dieu est comme incognito, transparent, invisible, Là, reconnaître Dieu dans toutes ses voies va demander une grande foi. Il faut une grande foi pour comprendre que c'est la providence de Dieu qui m'a amené dans cette épreuve. Hein? Ah, nous, on aurait aimé que la providence nous amène dans une grande bénédiction. Ça, c'est plus facile à accepter, mais même dans nos moments les plus durs, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Regardez Job. Même dans les épreuves les plus terribles qu'il a connues, mais qui a dit le dernier mot? C'est pas Satan. C'est Dieu. Pourtant, quand on regarde le détail des épreuves qu'il a traversées, ce ne sont que des situations naturelles. Des tempêtes, des éclairs, la foudre, le feu, des voleurs, des brigands, ses amis qu'il abandonne. Tout semble naturel. Mais tout est naturel. Mais derrière, il y a Dieu qui a dit, ouais, oui, ça va venir. Je ne vais pas te prévenir, il n'y aura pas un prophète qui va venir te l'annoncer, ça ne sera pas écrit dans le feuillet du jour du calendrier, mais ça va tomber sur toi, parce que c'est ma providence qui va conduire les situations pour t'amener dans quelque chose que j'ai préparé d'avance pour toi. C'est dur, hein? Mais quand on lit la fin de Job, on voit le progrès qu'il a fait. Il a fait quand même un sérieux progrès. Et c'est là le but de la providence divine, c'est nous amener tous à progresser. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et on connaît bien cette partie-là, hein, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Donc c'est les situations de votre vie, de votre contexte familial, professionnel, ou tous les contextes dans lesquels vous évoluez, qui vont tout simplement vous amener à une transformation progressive, progressive, progressive. Et là, vous comprenez qu'on ne parle pas que de jours heureux, mais bien souvent de jours malheureux, qui vont nous façonner, nous transformer, nous épurer, pour devenir de plus en plus comme Jésus. Alors on peut se dire, mais pourquoi il faut que ce soit si douloureux? Pourquoi le Seigneur ne nous transforme-t-il pas, hop, comme ça, en des êtres spirituels? Parce que la chair, elle est là. Et la chair, c'est à nous à la faire mourir. C'est pas le Seigneur qui le fera. C'est à nous, par l'Esprit, que nous devons faire mourir cette chair pour que l'Esprit prenne la place et que nous progressions de gloire en gloire à l'image de Jésus. Mais comme ça, c'est pas dans notre façon de prier naturellement, Seigneur, envoie-moi des épreuves pour que je change. Prie pas comme ça. Non. Du moins, on prie pas longtemps comme ça. Le Seigneur, dans sa providence, et sans rien nous dire pour pas trop nous effrayer, mais imaginez que le Seigneur, dès que vous vous levez un bon matin, vous êtes, voilà, en forme, tout, voilà. La nouvelle tombe. Aujourd'hui, il va t'arriver ça. Vous sortez plus de la maison. Et on n'avancerait plus. On sortirait plus. On vivrait plus. Mais sa providence nous conduira dans ces choses-là parce que son but est de nous amener à lui faire confiance même dans les épreuves. Pour que nous devenions comme Jésus. Amen. On le sait tous par expérience, hein. Ouais. Vous le savez que vos vies ne sont pas livrées au hasard. Vous le savez. N'allez plus voir les devins, les astrologues, les médiums. Ça ne sert à rien. Lisez la Bible. C'est mieux. Et priez le Seigneur. Et faites-lui confiance. Quelles que soient les situations que vous vivrez, même si Dieu ne vous explique pas le pourquoi du comment de la chose, apprenons à le reconnaître dans toutes nos voies. C'est pas évident, hein. Quand tout va bien, ok, oh Dieu, tu m'as béni, voilà, je suis en forme, Dieu m'a béni, voilà, tu renouvelles. Mais quand tout va mal, oui, mais Dieu aussi, il est là. Dieu t'a conduit dans ce tout va mal. Non pas pour t'écraser, mais pour t'apprendre des choses. Avant d'aller plus loin dans ce message, je voudrais quand même faire une petite parenthèse et que vraiment nous sortions de nos têtes ces fausses doctrines qui circulent de plus en plus. Oh, ça vient de là-bas, outre-Atlantique, ces doctrines de la prospérité. Tu es enfant de Dieu, Dieu te bénira, tu seras prospère. Matériellement, oh, tu seras riche, carrément, hein. Donc si t'es pas riche, est-ce qu'il y a des péchés cachés? Non mais c'est ça, hein. Et moralement, tu seras au top. T'auras plein d'amis. Spirituellement, tu marcheras sur l'eau tous les jours. La prospérité. Je vais pas citer de nom de ceux qui font circuler ces doctrines, mais bon, on les connaît un petit peu, on en a parlé en son temps, hein, de cette, voilà, dame. Mais, avec ces slogans, on l'a entendu, et parfois il y a même des chants où on retrouve cette pensée, accomplis tes rêves, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, tu vas t'épanouir pour accomplir tes rêves. Non, 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 non. Si vous écoutez Jésus, si tu veux me suivre, tu portes ta croix. Et tu vas mourir. Parce que la mort de Jésus nous amène aussi à mourir, selon son exemple, pour devenir comme lui. Mais la prospérité matérielle, ou morale, ou émotionnelle, ou spirituelle, la prospérité, la joie, le bonheur de la vie chrétienne, c'est pas un but en soi. Et c'est ça que cette doctrine de la prospérité met en avant. Si Dieu est avec toi, tu seras heureux. Ben non. Dieu peut être avec toi et tu peux être très malheureux. Dieu peut être avec toi et tu peux être très malade. Dieu peut être avec toi et tu peux être au chômage. Dieu peut être avec toi et être triste. Oui? Ça vous est jamais arrivé? L'apôtre Paul dira, j'ai appris tant bien que mal à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris. Mais dans ces apprentissages, c'était l'image de Jésus qui se formait. Et cette doctrine de la prospérité qui vous promet que de la prospérité, en rejetant tout le reste, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Attention, je dis pas que pour être bon chrétien, il faut être toujours malheureux. Ben non. Non, non, non. Paul, oui, exactement. Psaume 23, le bon berger, il nous conduit dans les verts pâturages. Alléluia! Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'était pas prévu au programme. Oui, mais Dieu, il y en a quelques-unes sous le coude, hein, auxquelles tu vas passer. Et c'est là que tu vas découvrir que Dieu est un grand libérateur. Que Dieu est un grand, quelqu'un qui va tout simplement te renouveler quand tout va mal. Alors la prospérité avec modération, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Mais le message de la croix, c'est si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que si le grain de blé ne meurt pas, il peut pas porter du fruit. Et c'est de la manière où on porte du fruit qu'on est heureux, qu'on est joyeux. Et même dans les prisons, on est heureux et joyeux parce que l'œuvre du Saint-Esprit se fait. L'œuvre de Dieu, c'est pas les circonstances autour de nous qui nous sont favorables, mais c'est l'œuvre intérieure qui nous change. D'accord? Parce qu'avec cette prospérité, ça peut faire culpabiliser pas mal d'entre nous. Tous les malades, il y en a quelques-uns quand même, hein. Si vous n'êtes pas guéri, si vous êtes dans le péché. Tous ceux qui n'ont pas des comptes en banque à 6 chiffres, 6-0 ou 7-0, ben, vous êtes dans le péché. C'est dommage. C'est très culpabilisant, hein. La providence de Dieu, c'est Dieu qui nous conduit dans toutes sortes de situations heureuses comme malheureuses. Il y a les deux, l'équilibre, hein. Mais pour nous transformer. Mais les transformations se font dans le malheur. pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est l'action de grâce. Mais quand tout va mal, on s'accroche à Dieu encore plus. Alors je voudrais vous donner en trois points, très courtement, mais trois caractéristiques de la bonne main du Seigneur, de la providence. De la providence. Qu'est-ce que comment la bonne main du Seigneur va agir d'une manière providentielle dans vos vies? Bon, bien sûr, vous n'allez pas vous en apercevoir, parce que c'est en silence. Ça veut le recul. Mais je dirais que, tout simplement, la première chose que la main de Dieu va faire, et sans vous avertir, c'est qu'elle va vous conduire. C'est tout simple, hein? Elle va vous conduire dans ce que Dieu a préparé. J'en reviens à mes vacances. Qu'est-ce qu'on était bien dans le jacuzzi. Nous étions à la mer, il faisait beau, on était dans un camping. Oh, il y avait un monde pas possible, mais c'est des petits jacuzzi, là où on est à 6-8. Et on s'est retrouvés à... On était 4, je crois. 4. On était bien. Des grosses bulles, là, ça, c'est massant. On était tellement bien avec mon épouse qu'on s'est mis à parler de l'Église. Même en vacances, on parle de l'Église. Terrible. Et comme les bulles, elles étaient fortes, on a parlé un peu plus fort pour qu'on s'entende. On parlait, voilà, nanana, nanana, un tel, nanana. Parlez de vous, quoi, en bien. Toujours, toujours. Mais toujours, toujours, arrêtez, c'est vrai. Et d'un seul coup, la personne en face, une dame, nous regarde, elle dit, mais vous n'êtes pas chrétien, vous? J'ai dit, si, et même un peu plus. J'ai dit, pasteur. Oh, pasteur. Pasteur dans un jacuzzi. Et voilà qu'on se met à parler de sa vie. Ou plutôt, qu'elle nous parle de sa vie. Parce que nous, ouais, t'es pas venu faire un entretien pastoral dans le jacuzzi, hein, certainement pas. Mais la providence de Dieu a fait. J'avais pas prié le matin, Seigneur, mets-moi quelqu'un sur mon chemin, j'ai envie de parler de toi. Mais non. Ah bah oui, je suis pasteur en vacances. Mais voilà que la providence de Dieu fait que là, on rencontre une chrétienne, ben ouais, qui avait besoin, parce qu'elle avait un peu abandonné l'Église. Parce que ses yeux s'étaient un peu ouverts sur les réalités de l'Église, elle n'est pas parfaite. Et ça l'avait tellement déçue qu'elle avait un peu quitté l'Église. Et voilà-t-il pas qu'elle tombe sur un pasteur. Et elle-même a reconnu, mais il n'y a pas de hasard. Elle a besoin d'entendre ça. Et après, on ne l'a plus revue. Mais elle est repartie avec le message pastoral. Très court, hein, entre deux bulles, hein. Mais elle a entendu, elle a reconnu qu'il n'y avait pas de hasard et que c'était Dieu qui la revient dans ma maison. Et je crois que nul besoin d'être dans des jacuzzi pour que la providence nous conduise, hein. Mais où que nous soyons, Dieu dans sa providence vous conduira. Il vous conduira parce que vous êtes ses enfants. Et j'en reviens à ce livre de Ruth. Ce livre de Ruth, il est quand même très 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 particulier parce que je disais tout à l'heure, on ne voit jamais Dieu mentionné d'une manière directe, et pourtant, Dieu va conduire. Vous connaissez un petit peu l'histoire, hein? Naomi, qui est veuve, elle est partie d'Israël, il y a la famine, tout ça, elle revient en Israël, et elle fait, il y a ses deux belles filles, et il y en a une qui veut quand même la suivre, qui abandonne sa patrie pour venir en Israël, c'est Ruth, et voilà qu'elles se retrouvent toutes les deux en Israël, mais elles sont fauchées comme les blés, il n'y a plus rien, hein. Elle est triste comme tout parce que elle est veuve, et elle revient là. Et voilà-t-il pas que la belle fille va dire tout simplement, bon, mais je vais aller essayer de remplir le frigo, hein, je vais chercher un peu de travail. Bon, ben à l'époque, ce sont des sociétés agricoles. Elle va dans un champ pour travailler avec les autres. Et voilà-t-il pas qu'elle tombe sur le bon champ. Il n'y avait pas que celui-là en Israël, hein. Elle avait un pagaille. Elle tombe sur le bon champ. Et voici ce que dira le texte, parce que quand même le mot il est tellement fort que ça devient même un mot, un gros mot. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz. Comme par hasard, la bonne personne. Et comme par hasard, le bon champ, parce que lui aussi, il en avait plusieurs champs. Mais derrière ce hasard, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui conduit. Le mot hasard est un peu déplacé dans ce texte-là. C'est Dieu dans sa providence, sans prévenir Ruth ou Naomi. Mais personne n'est prévenu. Elle part se disant, moi, il faut que je trouve du travail parce que il faut qu'on remplisse les placards. Et voilà, dès que je trouverai un champ, ben, j'irai, et je ferai comme les autres, hein, je vais travailler. Et elle tombe sur le bon champ. Elle tombe sur le bon champ. Boaz était le parent, avait le droit de rachat, etc. Si vous connaissez un petit peu les lois du Lévitique, c'était celui qui pouvait rattraper la situation et donner une descendance. Et elle tombera sur le bon champ. Combien dans la Bible ont été conduits d'une manière providentielle, où Dieu ne dit rien, Dieu semble laisser faire les situations, et pourtant c'est Dieu qui contrôle la situation. Prenez Joseph. Joseph qui est malmené par ses frères, il est jeté dans la citerne, il est vendu aux marchands, il se retrouve en Égypte, et jamais Dieu lui a dit, hey, t'inquiète pas, je suis là. Et pourtant, à la fin de tout ça, de tout ça, qui ça va durer des années, Joseph dira, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'avait envoyé devant vous. Il faut une sacrée grosse foi pour reconnaître que Dieu était derrière toute cette situation. Et lui, il l'avait cette foi. On pourrait parler d'Esther. La situation, elle est critique. Esther et Mardoché. Il y a Aman qui veut faire exterminer tout le peuple juif. Et le roi, il dit Amen. Ouais, on va tous les tuer. Et voilà que Mardoché va faire en sorte d'aller voir Esther et lui dire, et si c'est Dieu qui avait permis que tu sois à ce rang social, aussi proche du roi, pour maintenant intercéder pour sauver le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a jamais parlé à Esther. Et pourtant, la providence a fait qu'elle a été conduite pour devenir l'impératrice du royaume. Hein. Et c'était pas un sujet de prière d'Esther. Hein. Et pourtant, Dieu a conduit la situation. On pourrait parler de David. Oh, David, on l'a vu à long, à large, en travers, mais rappelez-vous comment tout a commencé. Un concours de circonstances, mais complètement anodin. Son père, qui l'envoie sur le champ de bataille pour aller apporter de la nourriture à ses frères et pour essayer d'avoir des nouvelles de leur santé, tout simplement. C'est tout. Et comme David, il est fidèle à son papa, il y va. Et comme par hasard, il arrive au bon moment. Quand il y a le Goliath, le géant Goliath qui est là, en train de se moquer d'Israël, et lui, ça va faire... Mais c'est pas Dieu qui a dit à David, « Oh, ce matin, tu vas voir, tu vas être recruté par le roi, tu vas rentrer dans sa cour, tu vas devenir, etc. » Il n'y a rien de tout ça. Tout s'est mis en place d'une manière très naturelle, parce que tout s'est placé au bon moment. Ça s'appelle la providence de Dieu. Il n'y a pas de prophète qui annonce quoi que ce soit, mais Dieu qui conduit les situations. On pourrait parler d'Abraham. Abraham, parce que la providence de Dieu, elle nous conduit, mais parfois, elle nous ramène. Abraham, il était dans le pays promis, Canaan. Et à deux reprises, il va quitter le pays promis. Il va aller en Égypte, à Guérar. Parce que, bon, c'était plus facile, il y avait la famine, alors à Guérar, là-bas, il y a tout ce qu'il faut, il y a les grands magasins, il y a l'alimentation, il y a tout ce qu'il faut. Et voyez comment les situations tournent au vinaigre, à tel point qu'il est obligé de repartir. Dieu lui a jamais dit, tu reviens. Mais c'est les situations qui étaient tellement fermées et bloquées qu'on l'a mis à la porte. Et Dieu nous conduit aussi comme ça. Jonas. Jonas lui a parlé une fois. Tu vas à Ninive. Il n'a pas voulu. Il est parti dans une autre direction. Mais qu'est-ce qu'il a arrêté? Qu'est-ce qui a arrêté Jonas? Un prophète? Non. Un ange? Non. Qu'est-ce qui a arrêté Jonas? Le grand poisson? Non. Il vient après. Une tempête? Une tempête. Des pluies naturelles? Quoique c'est Dieu quand même qui la dirige la tempête. Une tempête. Et voilà que Jonas se met à réfléchir. Dieu nous conduira. Dieu nous conduira toujours, sans forcément nous dire où nous devons aller. On est tous tellement enclins à se précipiter, voire se tromper. La providence sera là pour concourir les choses et pour nous ramener. Oh, parfois Dieu nous laissera dans l'erreur quelque temps, mais à un moment donné, la situation va prendre une telle tournure que on va être obligé de faire un demi-tour. Il écrit dans le prophète Jérémie, « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas maître de ses pas. » Peut-être que tu crois que c'est toi qui diriges ta vie en disant au Seigneur ce qu'il devrait faire d'une manière un peu plus vite peut-être même, mais non, celui qui dirige ta vie c'est le Seigneur et tu n'es pas maître de tes pas. Personne n'est maître de ses pas, c'est Dieu qui nous conduit. Si j'avais été maître de mes pas, je ne serais pas au milieu de vous. Vous connaissez mon témoignage, hein? Je serais certainement sur le bord de la route, avec une moto, habillé tout en bleu, avec un radar. Mais Dieu a toujours fait concourir pour que j'échoue tout. Alors j'ai tout échoué. Vous connaissez ce témoignage, mon témoignage. Si j'avais été maître de ma vie, certainement que, vu que la gendarmerie s'est fermée, j'aurais été dans l'armée de terre. Mais voilà-t-il pas qu'ils perdent mon dossier? Oh, quand même. Non, la porte m'est fermée parce que mon âge montant, j'étais disqualifié maintenant. Dieu conduit les circonstances. Pourtant, Dieu m'a jamais dit, hey, tu seras jamais gendarme. Tu seras jamais militaire. Non, il m'avait rien dit, hein. T'es dur, hein? Mais avec les années et les rétros, merci Seigneur, hein? Si Dieu, ou si j'avais été maître de ma direction, ben, j'aurais jamais rencontré mon épouse. Parce que quand j'ai postulé pour l'école biblique, c'est là qu'on s'est rencontrés, hein? On n'aurait jamais dû se croiser dans les sessions chaque année. Mais quand j'ai postulé la première année, voulait-il pas que mon courrier ait pris, il s'est perdu? Ah, quand même, la poste, oh! Ah, Seigneur, c'est pour toi, quand même, je veux rentrer à l'école biblique, c'est pour toi, et tu permets que mon courrier se perde. Seigneur, tu m'as fait perdre un an, Seigneur. Eh ben ouais, quand même, hein. Seigneur, un an, qu'est-ce que je vais faire pendant un an, maintenant? Et l'année suivante, bon, on repostule. On met tous les timbres qu'il faut. Et là, ça passe. Et voilà-t-il pas qu'on rencontre Dalila? Vous connaissez l'histoire, hein? Voilà. C'était pas des sujets de prière. Mais Dieu faisait conduire les situations sans me dire quoi que ce soit. Mais en regardant dans les rétros, merci Seigneur pour toutes ces pertes de dossiers, de courriers et de... Ouh là là! Parce que c'est Dieu qui dirige nos pas et nos vies, tout simplement. C'est Dieu. Le psaume 23 nous dit, vous le connaissez ce psaume, hein, par cœur, « Ta houlette et ton bâton me rassurent, le bon berger, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et vous savez que le bâton, bon c'est pour les coups, hein, mais la houlette, c'est un long bâton avec un petit crochet. Bon, certains disent qu'il y a une cuillère pour lancer des pierres aussi, mais il y a un crochet aussi. Et quand les brebis partaient un peu, vous savez, il y a toujours des brebis qui partent un peu trop. Il y a toujours des chrétiens désobéissants. Il y a toujours des chrétiens insoumis, il y a toujours des chrétiens qui pensent que, voilà, ça serait bien que... Alors ils partent, mais jamais dans des intentions de rébellion, mais d'insoumission, parce que... Et c'est là que la houlette, ouf, va les ramener, tout simplement. Ça s'appelle la providence. Le psalmiste dira, mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, mes destinées sont dans tes mains. Deuxième circonstance, ou plutôt deuxième caractéristique de la providence de Dieu, la main de Dieu, la bonne main du Seigneur, c'est celle qui va vous nourrir. Elle va vous conduire, mais elle va vous nourrir. Oh, je ne parle pas de nourriture spirituelle. Je vais revenir sur un terrain très terre à terre. S'il y a de la nourriture dans votre placard, dans votre frigo, si vous pouvez dire chaque jour, Seigneur, merci pour ce repas, vous savez, l'action de grâce, c'est parce que quelque part, votre bon berger, d'une manière providentielle, a permis que les choses soient ainsi. Alors, oui, quand le frigo est rempli, amen, merci Seigneur, tu es fidèle. Mais quand le frigo se vide, et que le chômage est là, et que les salaires ne sont plus là, merci Seigneur pour le frigo qui est vide. Et pourtant, si vous lisez la Bible avec attention, vous verrez que quantité de versets vous montreront que Dieu ne vous oubliera jamais. Dieu ne peut pas vous oublier. Je reviens à Ruth. Quand Ruth était dans ce champ, est-ce que dans sa tête, elle se disait, alors qu'elle est en train de travailler, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? D'avoir trouvé un champ, c'était déjà pour elle une grande satisfaction. Et elle vivait certainement les heures après les heures sans se projeter plus loin. Et pourtant, quand Boaz va venir dans le champ, et quand il va voir ses serviteurs lui dire, mais qui c'est celle-là? C'est étrangère. Et là, on va lui raconter, oui, c'est une parente de Naomi. Voilà que Boaz, d'une manière providentielle, va l'inviter à sa table. Et va lui dire, viens et fais comme les autres. Si tu as soif, va à la cruche et sers-toi à boire. Quand tu auras fini de travailler, tu t'assoiras à la table avec mes serviteurs et mes servants et tu mangeras comme eux. Et mais Boaz, il la connaît pas. Il sait que c'est une parente de... etc. C'est tout. Mais Dieu, il avait tout planifié. Il avait tout préparé pour que Ruth ait de quoi manger aujourd'hui. Et il y aura même de la nourriture le soir de reste pour l'amener à Noémie. Mais c'est Dieu qui fait ça. Dieu est celui qui a promis de prendre soin de vos vies. La Bible nous dit que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, il s'occupera de tout le reste. Et tout le reste, c'est le vêtement. On ne parle pas de choses spirituelles dans le contexte. On parle du vêtement, des habits et de la nourriture. Toutes ces choses que les païens, dira Jésus, cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dans Hébreu, il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais je vais m'en contenter et te dire merci. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Même si tu as peu, ce peu se renouvellera. Prenez la veuve de Sarepta. Elle n'a pas grand-chose. Mais le peu qu'elle avait, ça s'est renouvelé tout le temps. Et il y va de la fidélité de Dieu. Si Dieu a dit qu'il s'occuperait de vous, comme le David dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, et jamais vu le juste mendier son pain. Dieu est fidèle. Et la bonne main du Seigneur, elle est fidèle d'une manière ou d'une autre. La nourriture arrivera. Comment? Bon, je sais pas. Peut-être que un travail trouvé, peut-être quelqu'un qui amène de la nourriture. On ne sait pas. Si on le savait, ce ne serait pas la providence. Mais la providence fait que Dieu fait concourir les situations de telle sorte que c'est sa parole qui soit toujours respectée. Parce qu'il y va de l'honneur de Dieu. Si Dieu est fidèle, alors il ne permettra pas que je manque du nécessaire. On a un exemple étonnant, c'est Abraham, quand il a, vous savez, il était sur le point de sacrifier Isaac, et Dieu lui dira, stop, ne le fais pas, j'ai vu, ton cœur est droit. Et tout est prêt pour le sacrifice, mais celui qui devait être sacrifié ne l'est plus. Et voilà-t-il pas, qu'en se retournant, il entend un animal, comme par hasard, qui se retrouve coincé par les cornes dans un buisson. Et on est sur une montagne. Mais d'où il vient cet animal ? Il tombe du ciel ? Peut-être qu'en bas de la montagne, il y a un berger qui est en train de compter ses moutons en disant « Mais il m'en manque un, là !» Quel concours de circonstances pour que ce... On va dire que c'est un mouton, hein, on ne sait pas trop, mais... Ce bélier se retrouve à la bonne heure, au bon moment, au bon endroit, justement quand on avait besoin d'un sacrifice. Et c'est là qu'Abraham, qui savait reconnaître Dieu dans toutes ses voies, qui dira, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Yahvé, j'irai. Dieu vous conduira. Et Dieu vous nourrira toujours. Il y va de la fidélité de Dieu. Et je crois qu'on a tous des témoignages où on a vu Dieu se glorifier matériellement, parfois au dernier moment, mais Dieu se glorifier en donnant le nécessaire. Le nécessaire. Dieu est fidèle. Il pourvoit toujours, 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 toujours. Et dernière caractéristique de la bonne main du Seigneur, de cette providence, elle nous couvre cette main, elle nous couvre, elle nous protège. La bonne main du Seigneur est une protection sur nos vies. Et je reviens à Ruth. Ruth, il est dit dans ce texte, donc 2 au verset 9, « Regarde bien, dira-t-il. » Donc à Ruth, il dira « Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis-les. » Suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit, dira-t-il, j'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et Dieu, dans sa providence, il interdit au diable de nous ennuyer. Il interdit à nos ennemis de nous ennuyer. Parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Si vous avez des ennuis, c'est parce que Dieu a dit oui à un moment donné. Oui, tu peux le toucher. Mais quand Dieu dit non, il se passera rien. Et il y a la main de Dieu, elle est là, elle nous protège. Je pense que les témoignages sont très nombreux dans nos vies, mais on ne peut pas savoir quand Dieu nous a protégés. On ne peut pas le savoir parce qu'il ne nous est rien arrivé. Mais parce qu'on a été protégés. Si le mal nous avait atteint, on aurait pu dire, oui, là, il s'est passé ça, mais Dieu m'a relevé. Mais vu que Dieu vous a protégé, comment pouvez-vous savoir que vous étiez en danger? Je repense à ce témoignage de Lilian. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes à un stop. Moi, je pense, un stop. Et voit-il pas que la voiture en face, bon, je prends un exemple, elle se met à caler. Oh, et vous pestez derrière votre volant, vous êtes pressé. Mais comme le bonhomme, ou la bonne dame, n'arrive pas à redémarrer sa voiture, vous pouvez pas passer. Et voit-il pas qu'une voiture qui déboule à fond, pff, si vous étiez passé, c'était le clash. Un feu qui durerait trop longtemps, et on est là. On a envie de le brûler, Pas vous, mais des fois... Et on voit, tout d'un coup, on ne l'a pas vu venir, un bus, un camion, une voiture. Mais à combien d'accidents, peut-être même de la route, on est passé, mais on n'a rien vu parce que Dieu nous a protégés. Je vous parle pas de ces situations où parfois on perd le contrôle et Dieu nous remet. Non, non. En fait, des situations où on n'a rien vu parce que Dieu a été tellement efficace que c'est passé comme une lettre à la poste. Ou tous ces accidents domestiques. Vous savez, avant de partir en congé, je vous ai raconté ce qui nous est arrivé l'an dernier. Normalement, un de nos fils ne serait plus là parce que noyé. Noyé dans la mer parce qu'il avait plus pied. Il était sur une sorte de grand dauphin gonflable. Il a été embarqué. Il avait plus pied. Je suis allé là-bas. Il n'y a pas pied. Et on l'a vu couler. Pouf. Mais c'est comme s'il avait tapé un trampoline. Pouf. Il est sorti de l'eau. Il n'avait pas pied. Je suis allé voir. Et en sortant de l'eau, il s'est cramponné à son dauphin. Que Dieu bénisse le dauphin. Et moi, je suis allé le récupérer, bien évidemment. Mais quand même, ça fait drôle, hein? Parce que là, vous vous dites, mais c'est la main de Dieu. La façon dont il est ressorti de l'eau, mais c'est comme s'il avait été propulsé, comme la courte échelle, quelque chose. On ne sait pas, on n'explique pas. Mais Dieu nous garde. Et on n'avait pas. C'est vrai qu'on priait, on priait tous les matins. Seigneur, garde-nous de. Quand même, on ne sait jamais à la mer. Mais parfois, on passe à côté de situations, on ne sait même pas qu'on était en danger. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui aiment Dieu et il les arrache au danger. Et même avant que le danger arrive, parfois dans le danger, mais parfois avant même que le danger arrive. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Dieu nous protège. Et je suis sûr qu'on aurait tous des anecdotes, des témoignages où on avait le peut-être le recul ou le peu d'occu, mais si Dieu avait pas été là, je me serais cassé la jambe ou tordu la tête ou je sais pas quoi. Mais Dieu nous protège sans forcément nous envoyer un prophète le matin en disant oh Dieu va te protéger, ne crains pas. Non, Dieu le fait sans te prévenir. La Bible nous dit « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour dès maintenant et à jamais. » Tout ça pour vous dire que s'il vous arrive un malheur, c'est que Dieu le permet. C'est Dieu le permet. Vous n'êtes pas livré au hasard des situations. Vous n'êtes pas livré au pouvoir de Satan. Vous n'êtes pas livré à la bonne volonté des méchants. Non, c'est Dieu qui règne en silence. Et c'est rassurant parce que tout ce qui vous arrivera, en bien comme en mal, finalement, bon, surtout en mal, et on sait que Dieu sera toujours là. C'est la providence de Dieu. On ne sait pas comment les choses vont arriver, comment les choses vont se goupiller, comment les choses vont se mettre en place, mais la providence de Dieu fera le nécessaire au bon moment pour tout simplement honorer les promesses de Dieu. Je termine avec ce texte du Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les « je pense que » et Dieu sait que nous pensons beaucoup. Mais Dieu pense plus que nous. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dans vos projets, dans les choses que vous essayez de mettre en place, dans vos initiatives, dans vos directions, dans toutes ces choses-là. Et je dirais même dans les choses parfois anodines. Parfois c'est tellement anodin qu'on se dit, mais je vais quand même pas déranger le Seigneur avec ça. Eh bien si. Parce que Dieu a décidé de s'occuper de ta vie dans les moindres détails. Il est bon de se confier même dans les moindres détails. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Apprenez, et on a tous besoin de l'apprendre, Apprenons à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dans les jours heureux comme dans les jours malheureux, ma vie est dans les mains de Dieu. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Ésaïe dira, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. » La main de Dieu, je te prendrai par la main. Que vous la sentiez ou pas, cette main, elle sera toujours là. Et le psaume 95, c'est même un chant que nous chantons de temps en temps, car il est notre Dieu. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons. Ouais. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons. Et merci pour ta fidélité. Merci pour cette providence qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre réflexion, qui dépasse même notre sagesse, qui nous dépasse totalement. Combien nous avons tous été sujets, un jour ou l'autre, à cette providence divine. Combien nous voulons apprendre à te reconnaître dans toutes nos voies. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, peut-être pour tes enfants qui passeraient par des moments difficiles, qui se sentiraient peut-être même abandonnés de toi, tellement les circonstances sont négatives, Seigneur, je te prie, Seigneur, dans ta providence divine, de faire concourir toutes les choses selon ta sagesse à toi, selon ta volonté. Oui, donne-nous d'apprendre cela. Nous voulons apprendre à te reconnaître dans toutes nos voies. Parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui conduiras nos pas. C'est toi qui nous nourriras. C'est toi qui nous protégeras. Parce que tu es un Dieu fidèle. Et même si nous sommes infidèles, tu demeureras le fidèle. Tu nous garderas de nous-mêmes. Ô notre Dieu, nous te bénissons. Parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui veilles sur nos vies tous les jours. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen.